N'aimeriez-vous pas savoir quels seront les cours de la bourse l'année prochaine? Quel cheval gagnera le prochain Grand Prix de l'Arc de Triomphe? Ou quels seront les bons numéros du prochain tirage du loto? Désolé, mais je n'ai pas les réponses. Cependant, je suis sûr que vous trouverez des gens qui prétendent pouvoir le faire. Ici, au monde de demain, nous parlons beaucoup des nouvelles et prophéties. En nous basant sur les prédictions d'un livre appelé la Bible, nous savons dans quelle direction va notre monde et quelle sera l'issue. Nous ne pouvons pas vous dire exactement quand certains événements auront lieu, mais nous pouvons vous garantir que certains événements auront lieu, conduisant au retour d'un dirigeant puissant qui interviendra pour sauver l'humanité d'elle-même. Au début de chaque année, nous vous donnons des tendances et des choses spécifiques à surveiller pendant l'année à venir. Mais aujourd'hui, je vais vous dire ce qui ne va pas se produire en 2019. Cela peut sembler très simple, pourtant ces choses vont arriver, mais pas en 2019. Je vous dirai également comment recevoir notre brochure la plus demandée, 14 signes annonçant le retour du Christ. Elle contient des signes spécifiques à surveiller et vous pouvez la recevoir tout à fait gratuitement. Tout ce que vous devez faire est de nous contacter en allant sur notre site internet qui sera annoncé pendant cette émission. Les prédictions dont je parlerai aujourd'hui sont certaines. Si vous voulez savoir, en vous basant sur la Bible, ce qui n'arrivera pas en 2019, restez à l'écoute. Bienvenue au monde de demain. Je vais vous donner trois prédictions dont vous pouvez être sûr qu'elles n'auront pas lieu en 2019. Beaucoup de prétendus chrétiens croient au retour de Jésus-Christ. Nous y croyons aussi au monde de demain. Peut-être avez-vous entendu dire que Jésus peut revenir n'importe quand, même ce soir. Ce n'est pas vrai. Nous pouvons dire sans aucune hésitation que, prédiction numéro 1, Jésus-Christ ne reviendra pas en 2019. Comment pouvons-nous en être aussi certains? Encore une fois, laissez-moi vous assurer qu'ici, au monde de demain, nous croyons totalement que Jésus-Christ va revenir, et nous croyons qu'il reviendra bientôt. Alors, pourquoi pas en 2019? Considérons le fait que la Bible annonce la seconde venue du Christ, et nous verrons ensuite pourquoi nous savons que ce ne sera pas en 2019, pas plus qu'en 2020, ni en 2021 ou en 2022. Le retour de Jésus-Christ se trouve à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, et il a été annoncé par Jésus lui-même. Par exemple, dans la parabole de l'homme de haute naissance, nous voyons que ce noble représente le Christ qui va dans un pays lointain et qui revient. La signification est claire. Jésus partira et reviendra. Quel est donc le but de cette parabole? Nous voyons cela dans Luc chapitre 9, à partir du verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Ils comprenaient que le message de Jésus parlait du royaume de Dieu, un gouvernement mondial sur cette terre. La parabole n'était pas donnée à des détracteurs, mais pour montrer que le temps de son accomplissement n'était pas encore venu. Cela arriverait à l'avenir, mais d'abord, il devait partir, puis revenir. Voyons au verset suivant. Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. La nuit où il fut trahi, Jésus avait déclaré cela à ses disciples dans Jean chapitre 14 et au verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Après la résurrection, Jésus apparut à de nombreuses reprises pendant une période de 40 jours. Notez cela dans Actes chapitre 1 à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Que se passa-t-il ensuite? Ses disciples comprenaient qu'il établirait un royaume éternel sur cette terre. Et ils lui demandèrent quand cela aurait lieu. Sa réponse fut que ce n'était pas à eux de connaître ce moment. Leur travail était de prêcher l'évangile au monde entier en tant que témoignage. Puis, alors qu'il se tenait sur le mont des Oliviers, il disparut dans les nuages. Nous lisons ensuite au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ?» Ce même Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Cet événement du retour de Jésus-Christ sur le mont des Oliviers fut annoncé dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie. Bien que son nom ne soit pas mentionné, cela est bien compris par tous les spécialistes de la Bible, à la fois par les Juifs et les chrétiens, que ce chapitre est messianique, c'est-à-dire qu'il est au sujet du Messie. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. L'Éternel sera roi de toute la terre. Puisque la Bible annonce le retour du Christ, comment pouvons-nous savoir que cela n'aura pas lieu en 2019? C'est très important car un grand nombre d'évangéliques bien connus disent au public qu'ils pourraient revenir ce soir. Cela n'est tout simplement pas biblique. Je vais en expliquer la raison dans un instant. Mais laissez-moi d'abord vous présenter la brochure la plus demandée que nous proposons. 14 signes annonçant le retour du Christ. Cette brochure, écrite par le regretté Roderick Meredith, explique à partir de la Bible 14 signes qui précéderont le retour du Christ. Vous serez surpris de constater tout ce que vous pouvez voir de vous-même. Il nous est dit que, lorsque ces choses arriveront, le jour de l'intervention divine sera proche, voire très proche. 14 signes annonçant le retour du Christ est à lire absolument. Vous pouvez la recevoir gratuitement. Contactez-nous et demandez votre exemplaire dès aujourd'hui. Lorsque je reviendrai, je vous montrerai dans les Écritures pourquoi Jésus ne reviendra pas en 2019. Avant la pause, je vous ai dit que je vous montrerai pourquoi Jésus ne reviendra pas en 2019. De nombreux passages de la Bible le prouvent. Mais j'en donnerai seulement quelques-uns. Les disciples de Jésus lui demandèrent « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 24 et au verset 3. Certains attribuent à tort tous les événements de ce chapitre au terrible événement en 70 de notre ère, lorsque les armées romaines ont assiégé et conquis la ville de Jérusalem. Ce faisant, ils ignorent la question posée au verset 3. « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» La fin de la domination humaine a-t-elle pris fin en 70 après Jésus-Christ? Jésus est-il revenu peu après? Bien sûr que non. Les signes donnés dans les versets bibliques suivants se réfèrent à une époque très éloignée de l'an 70. Ils concernent notre époque, comme de nombreuses prophéties le montrent. Et certains de ces signes ont lieu maintenant. Mais notez certains signes très spécifiques mentionnés au verset 15. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. L'abomination de la désolation est spécifique, et nous devons surveiller une ancienne prophétie donnée par le prophète Daniel. Daniel avait prédit au chapitre 11 et au verset 31 du livre portant son nom un événement qui allait se produire environ 350 ans plus tard. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Cela se produisit avec une précision remarquable. L'historien juif Joseph rapporte que le dirigeant grec Antiochos Épiphane avait interdit les sacrifices quotidiens au temple à Jérusalem pour une période de 3 ans et 6 mois. Il a écrit « Antiochos contraignit les Juifs, au mépris de leur loi nationale, à laisser leurs enfants incirconcis et à sacrifier des porcs sur l'autel. Il s'est écoulé encore 200 ans avant que Jésus ne nous avertisse qu'un événement similaire aura lieu, un événement encore à venir. Daniel parla aussi de la fin des temps, comme nous l'avons souvent montré dans ses émissions. La prophétie de Daniel 12 est clairement pour la fin des temps, l'époque du retour du Christ. Notez les premiers versets de ce chapitre. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre. Et toi, Daniel, cache les paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Plusieurs courront ça et là et la connaissance sera augmentée. Daniel voulait savoir quand ces choses auraient lieu. Et parce qu'il ne comprenait pas, il demanda « Monseigneur, quelle sera l'issue de ces choses ?» Et la réponse se trouve au verset 11 et 13. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras ou tu mourras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Luc a un récit parallèle pour la prophétie du mont des Oliviers dans Matthieu 24. Il y fait le lien avec un autre événement qui parle de la profanation d'un lieu saint. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Les armées ont investi Jérusalem en l'an 70. Et elles ont provoqué la désolation dans la ville et le temple. Mais Daniel parle clairement d'une époque à venir, lorsque le Christ reviendra et que la résurrection aura lieu. Ce signe à venir de l'abomination de la désolation, ainsi que les 3 ans et 7 mois qui suivront, ne sont pas encore arrivés. C'est une raison pour laquelle, prédiction numéro 1, Jésus-Christ ne reviendra pas en 2019. Ni en 2020, 2021 ou 2022. À présent, continuons avec la deuxième prédiction. Prédiction numéro 2. Il n'y aura pas d'enlèvement en 2019. L'enlèvement est une doctrine très populaire proclamée par de nombreux évangéliques et popularisée par le livre de Tim LaHaye, L'enlèvement. Mais comme nous l'avons expliqué dans d'autres émissions du Monde de demain, la Bible n'enseigne pas cette doctrine. Les partisans de cette doctrine prétendent qu'elle se trouve dans le 4e chapitre du livre de 1 Thessaloniciens. Lisons donc attentivement ce qui est écrit. En commençant au verset 13, l'apôtre Paul donna du réconfort à l'église de Thessalonique à propos des êtres chers qui meurent dans la foi. Or, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui dorment, afin que vous ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Notez comment Paul décrit ceux qui meurent, non comme allant au ciel, mais comme étant endormis, totalement inconscients. Puis il donna un immense encouragement à long terme. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Nous voyons rapidement que le sujet n'est pas une sorte d'enlèvement pour échapper à la tribulation, mais un encouragement pour les amis et les proches qui affrontent la mort d'un être cher. Paul ajouta ensuite que ceux-ci seront les tout premiers à être ressuscités au retour du Christ. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts n'ont pas besoin de protection pendant la tribulation. Ils sont totalement inconscients dans leur tombe. Qu'en est-il du verset suivant ? Ne dit-il pas que nous serons enlevés ? Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Certes, il y a le mot « enlevé ». et les partisans de l'enlèvement s'appuient sur ce mot qui est la traduction du mot grec harpasso et qui donne enlèvement en français. Mais que signifie ce mot? La version parole de vie donne une bonne traduction. Être emporté. Il s'agit clairement d'une résurrection lorsque les morts en Christ seront d'abord ressuscités des morts, puis ceux qui seront vivants au retour du Christ seront transformés. Il n'y a aucune allusion à une sorte d'enlèvement. Et le dernier verset de ce chapitre clarifie bien le sujet. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Paul ne se focalise pas sur un enlèvement, mais il réconforta ceux qui ont perdu un être cher, mort dans la foi. Notez l'époque de cette résurrection d'entre les morts. Paul dit-il quand cela aura lieu? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le livre de l'Apocalypse décrit sept trompettes qui retentiront à la fin des temps. Que se passera-t-il au son de la dernière trompette? Le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. » Notez à présent que dans la progression du livre de l'Apocalypse, la tribulation et le martyre des serviteurs de Dieu a déjà eu lieu. Cette septième trompette retentit au moment du retour du Christ et de la résurrection de ses serviteurs. Il n'y a pas d'enlèvement ici. Ainsi, aucun enlèvement n'aura lieu en 2019, ni à aucun autre moment. L'enlèvement n'est pas une doctrine biblique. Les deux premières prédictions qui n'auront pas lieu sont donc numéro 1, Jésus-Christ ne reviendra pas en 2019. Numéro 2, il n'y aura pas d'enlèvement en 2019. Je vous donnerai une troisième prédiction dans un instant, mais je souhaite vous rappeler d'abord l'offre d'aujourd'hui. 14 signes annonçant le retour du Christ. Les signes donnés dans cette brochure proviennent des pages de la Bible et, comme vous le verrez, ils sont déjà en cours ou ils sont sur le point de se produire très bientôt. Ce sont des signes menaçants et ils vous affecteront. L'un d'entre eux est les guerres, la violence et l'anarchie. L'ancien président de l'Union soviétique, Mikhail Gorbatchev, avait déclaré en décembre 2016 « Il semble que le monde se prépare pour la guerre. » Quelle sorte de guerre, à votre avis, sera le prochain grand conflit ? Ne voyons-nous pas augmenter la violence et l'anarchie autour de nous? 14 signes annonçant le retour du Christ vous donnent aussi des signes très spécifiques comme l'ascension d'une puissante figure religieuse. Contactez-nous pour recevoir cette brochure. Avant la pause, j'ai dit que j'allais vous donner une autre prophétie qui n'aura pas lieu en 2019. Voici donc la prédiction suivante. Numéro 3. La véritable paix arrivera, mais pas en 2019. L'humanité désire la paix. Des institutions ont été créées pour la mettre en place. La Société des Nations a été créée pour mettre fin aux guerres. Après son échec, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies ont été créées. Mais elles n'ont pas davantage apporté la paix. L'ancien président américain Richard Nixon a décrit ce problème dans son livre « La paix véritable ». Ceux qui font la paix assis derrière un bureau, au lieu d'être à la table des négociations, ont le luxe d'être des pacificateurs, qui ne s'encombrent pas des problèmes complexes de la véritable diplomatie internationale, dans un monde sans dessus-dessous. Pour eux, le seul obstacle à la paix est le manque regrettable de dirigeants désintéressés et idéalistes, qui auraient la volonté de mettre de côté tout intérêt propre et national, dans le but d'apporter la paix dans le monde. Ils espèrent que cette ère sera une époque où les intérêts personnels, la force qui a dirigé le cours de l'histoire depuis la nuit des temps, disparaîtront. Ils comprenaient avec justesse que le problème est principalement théologique et que la nature humaine doit changer. Mais Nixon n'était pas optimiste. Sur le long terme, nous pouvons espérer que la religion changera la nature humaine et réduira les conflits. Mais l'histoire ne rend pas optimiste. Les guerres les plus sanglantes de l'histoire ont été les guerres de religion. Des hommes priant le même Dieu se sont entretués par milliers pendant la guerre civile en Amérique, et par millions pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. À moins que les hommes ne changent, la véritable paix ne pourra être établie que si la plupart d'entre nous apprenons à vivre avec nos différences, au lieu de nous tuer au nom de celles-ci. Malheureusement, Nixon avait raison. Trop souvent, la religion a été le problème au lieu d'être la solution. Nous avons beau tourner le problème dans tous les sens, nous arrivons à la même conclusion. La science et la technologie peuvent nous emmener vers la Lune, mais en fin de compte, il reste un monstre de Frankenstein qui peut détruire toute vie sur cette planète. Les gouvernements sont dirigés par des rois, des présidents, des partis, des comités, des congrès et des parlements. Mais aucun n'a apporté une paix durable. Lorsque les hommes forment Dieu à leur propre image, même la religion est un ennemi de la paix. En 1959, l'ex-URSS donna aux Nations Unies une statue en bronze d'un homme tenant un marteau à la main et une épée dans l'autre, alors qu'il la transforme en outil agricole. Cette œuvre d'art s'appelle « Transformons les épées en charrues » et elle représente le désir de l'humanité de mettre fin aux guerres. L'inspiration de cette sculpture se trouve dans la Bible. Nous lisons dans Michée, chapitre 4 et au verset 3, « De leurs épées, ils forgeront des socs, et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre nation, et on n'apprendra plus la guerre. » Au monde de demain, nous prêchons ce message de paix. Nous proclamons que la paix sera établie à l'avenir, et elle représentera bien plus que la simple absence de guerre. Cependant, chers amis, cela ne se produira pas en 2019. Et je vous montrerai pourquoi dans la dernière partie. Bien que nous voyons beaucoup de signes que Jésus nous a dit de surveiller, d'autres événements doivent encore se produire avant son retour. 14 signes annonçant le retour du Christ vous montrera dans quelle direction regarder. Certains de ces signes se produisent en ce moment même. D'autres doivent encore s'accomplir. Mais cette brochure vous aidera à savoir ce que les autres ne savent pas. Ne soyez pas pris par surprise. 14 signes annonçant le retour du Christ vous montrera ce à quoi vous attendre dans les années à venir. Demandez votre exemplaire gratuit dès aujourd'hui. Comment pouvons-nous être aussi sûrs que la paix n'arrivera pas en 2019? Je sais que cela peut paraître évident, mais la Bible annonce bel et bien que la paix sera établie. Et possiblement, pendant votre vie. Il est clair que la seule façon d'atteindre la paix est qu'un dirigeant fort venu de quelque part puisse l'apporter. Ce dirigeant sera ni plus ni moins que Jésus-Christ à son retour, et comme nous l'avons déjà vu dans cette émission, il ne reviendra pas au cours des deux prochaines années. Plusieurs conflits doivent d'abord avoir lieu. Et la Bible montre que ces conflits dégénéreront à un niveau très très alarmant. Apocalypse 9 parle d'un conflit entre la puissance de la bête européenne et une armée de 200 millions d'hommes venus de l'Est. C'est assez difficile à imaginer, mais ce sera une guerre sans merci, un conflit qui provoquera la mort d'un tiers de l'humanité. Vous pouvez lire cela dans Apocalypse chapitre 9, au verset 16 et 18. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades, soit 200 millions. J'en entendis le nombre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Jésus nous a avertis que la situation sera catastrophique au point que toute vie pourrait disparaître. Notez cela dans Matthieu chapitre 24, au verset 21 et 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. La Bible n'est pas un roman de science-fiction dans les rayons d'une librairie. Elle déclare avec précision un avenir sombre et immédiat. Mais la bonne nouvelle est que celui que l'humanité a globalement rejeté reviendra bientôt sur la terre pour nous sauver de nous-mêmes. C'est alors que la paix deviendra réalité, mais pas avant. C'est le message du monde de demain. Un monde meilleur se profile à l'horizon, mais ce ne sera pas en 2019. Assurez-vous de commander un exemplaire de 14 signes annonçant le retour du Christ. Cette brochure est totalement gratuite. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine, lorsque Richard Hems, Wallace Smith, notre présentateur occasionnel Rod McNair et moi vous présentons la bonne nouvelle du monde de demain. D'ici là, que la paix et la vérité du Dieu Tout-Puissant et de Jésus-Christ soient avec vous.
Pour recevoir les publications proposées dans cette émission ou pour revoir ce programme à votre convenance, visitez mondedemain.org. Retrouvez-nous sur Facebook, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Twitter. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.